Bonjour à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeons et Hirondelles qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain. Pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, vont nous donner de précieux conseils, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre appli de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Imaginons, fallait se présenter. Qu'est-ce que tu dirais ?
C'est très compliqué de se présenter. Tu vois, les Grecs, ils disent « connais-toi toi-même ». Hein, le cheminement d'une vie, c'est ça, se connaître soi-même. C'est peut-être au moment où on meurt, que si on a suffisamment de conscience à ce moment-là, et si on n'est pas complètement terrorisé, c'est peut-être à ce moment-là que tu peux dire qui tu es, te présenter. Après, quand on parle avec quelqu'un et qu'on lui dit alors, tout de suite, c'est « tu fais quoi ?»
Oui.
N'est-ce pas ? Parce que notre cerveau est habitué par notre mythe judéo-chrétien, n'est-ce pas ? Par leurs actes, vous les connaîtrez. Donc, par ce que tu fais, je saurai qui tu es. Mais c'est pas forcément le cas, parce que quelqu'un qui va être, je sais pas, cheminot, sera peut-être en même temps poète, et quelqu'un qui sera ingénieur agronome sera peut-être aussi quelqu'un qui adore élever des lapins, qui connaît tout sur les lapins. Et peut-être qu'un grand romancier sera un violeur de petites filles. Donc, puisque ton blog c'est sur l'art apparemment et tout ça, pour arrêter de faire comme ça, faire des coquetteries. Ma principale occupation c'est d'être acteur. Très longtemps au théâtre, un peu moins au théâtre, mais toujours au théâtre parce que j'adore le théâtre, j'adore jouer au théâtre, le rapport avec le public, le rapport avec le présent. La quête permanente, c'est de recommencer à chaque fois pour aller plus profond, mais devoir recommencer du même endroit à chaque fois, escalader la montagne à chaque fois plus haute, mais toujours du même endroit. C'est toujours neuf, on répète, mais en même temps c'est toujours neuf. J'ai fait du cinéma enfant, au tout début avec mon père qui est réalisateur, entre autres choses, et dans El Topo. J'avais 6 ans et demi. Puis après, j'ai fait d'autres films en Amérique latine, mais voilà, 3-4 autres films. J'ai eu un prix d'interprétation enfantine là-bas, au Mexique, en 74. Et puis après, j'ai complètement lâché cette idée après que, avec mon père, mon père avait le projet de faire Dune, adapter Dune au cinéma de Frank Herbert. Je devais jouer le rôle principal, donc j'ai fait un entraînement de 2 ans pour le faire. Finalement, le film s'est pas fait. Et au moment où le film s'est pas fait, d'abord, ma frustration personnelle n'avait rien à voir avec celle de mon père qui menait le projet. Et puis, c'était juste au moment de l'entrée dans l'adolescence où les amis sont devenus la chose la plus importante de ma vie.
Bah oui, forcément.
Et donc, à ce moment-là, je voulais être vétérinaire. Et puis après, j'ai voulu être pilote d'avion. Puis après, j'ai fait des études de psychologie. Enfin, j'ai commencé des études de psycho à la fac de Nanterre pour être pédopsychiatre. Mais comme le hasard m'a mené dans un cours de théâtre où tous mes copains allaient et que ce samedi après-midi, je voulais pas ne pas être avec eux. J'ai été regarder le cours de théâtre et miraculeusement, un élève ne s'est pas présenté. Et le professeur m'a demandé de le remplacer afin qu'il puisse travailler la scène. Il y avait 2-3 mots à dire. Je suis allé sur le plateau et en sortant de là, je me suis dit, mais c'est ça ma vocation.
Ouais.
C'est là où je veux être. C'est sur scène et c'est à travers les poètes du théâtre que je veux me rencontrer et rencontrer le monde.
Voilà. Donc ça a tout de suite été le théâtre.
Oui, 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 parce que je savais rien.
Commencer par les grands, quoi.
J'étais très ignorant et donc très prétentieux. Et donc j'ai tout de suite voulu passer le concours du conservatoire alors que j'allais jamais au théâtre, j'avais rien lu, je connaissais rien. Bon, allez, on y va. Voilà. Et puis évidemment, j'ai pas été pris. Et puis après, j'étais très vexé parce qu'encore une fois, très prétentieux à cause de mon ignorance. Je dis ouais tout ça bon l'institution blablabla moi j'ai monté ma troupe amateur et puis voilà et puis j'ai monté une troupe amateur avec mes copains et d'autres. Là je me suis rendu compte que les gens en général ne suivent pas celui qui sait où il va, ils suivent celui qui dit on y va. On a un exemple avec dans la politique, je pense que tout le monde
sait à qui
je fais référence. Mais bon, pendant 2 ans, j'ai appris par moi-même tout ce que je pouvais apprendre, parce que je me suis dit, au moins, ce que j'apprendrai viendra d'expérience. Donc, on a monté 2 spectacles, à l'huile de coude, voilà, on va faire les costumes, faire les décors, la vie de troupe amateur. Donc, on répétait 1 ou 2 fois par semaine, quand on pouvait, où on pouvait, trouver des salles. Donc, j'ai appris pas mal de choses, par moi-même, mais au bout de 2 ans, je me suis dit, voilà, j'ai appris ce que je pouvais apprendre par moi-même. Donc, il y a un moment donné où tu as besoin de trouver un maître. Et puis, ma prétention était peut-être aussi un peu descendue, parce que j'ai beaucoup lu. J'ai commencé à éliminer, parce que le théâtre c'est vaste, hein. Quel théâtre ?
Oui.
Donc j'ai commencé par éliminer ce que je ne voulais pas faire avant de comprendre ce que je voulais faire. Puis au bout de ce processus, j'ai compris que j'étais intéressé par le théâtre expérimental, par les travaux de Grotowski, de Barba, de Peter Brook. Voilà. Puis à l'époque, je m'étais dit, moi je veux travailler avec Brook. Et Mouchkine,
tu vois. Ah oui, d'accord.
Donc, j'avais gardé une petite prétention quand même.
Mais cela dit, c'est intéressant ça, parce que j'avais pas vu ça comme ça, cette histoire d'orgueil. Très souvent, peu importe l'art que tu essayes de développer, en fait, c'est très prétentieux de se dire que on va faire quelque chose de bien tout de suite. Il faut quand même faire plein de choses un peu pourries, quoi.
Mais il faut être prétentieux aussi. C'est toute la question de la gestion de l'ego, l'ego de l'acteur, l'ego de l'artiste, l'ego dans la vie en général. Beaucoup de gens pensent qu'il faut éliminer l'ego, mais non, l'ego est nécessaire. Il faut pas maîtriser par lui, être clairvoyant et à chaque étape se rendre compte de là où on en est, tirer les leçons et avancer et passer d'un ego à l'autre.
Où est-ce que je me trouve,
quoi. Tu vois, c'est simple. L'ego évolue comme évolue peut-être le talent. Donc c'est pas une chose fixe. Et se dire faut éliminer l'ego, c'est ok. Bon, on va se couper de ce mot, alors que d'autres vont dire c'est de l'ambition, d'autres c'est de l'espérance, d'autres c'est un désir utopique. Donc voilà. Moi j'ai compris que je voulais faire du théâtre ensemble, théâtre de troupe. Et puis dans cette idée, je m'étais dit, elle s'est réalisée en fait. Tu sais, dans ma vie aussi, il y a la puissance de la, on peut appeler ça ego, mais aussi de la visualisation, de la projection, du rêve que tu te construis. C'est important de l'avoir parce que aussi le cerveau, la vie organise les choses aussi en fonction de ça. Et donc quelques années plus tard, je suis entré au Théâtre du Soleil après avoir passé un temps avec mon premier maître de théâtre, Richard Chislac, qui était dans les années 60, l'acteur emblématique de Jerzy Grotowski au Théâtre Oratoire de Wroclaw, qui, quand je l'ai rencontré, il était acteur chez Peter Brook dans le Mahabharata, et je lui ai dit que je veux travailler avec vous. Il m'a dit, mais bon, tu sais, je donne pas de cours, c'est pas grave. Donc, j'ai monté une association, j'ai monté un groupe, j'ai trouvé un lieu. Et puis il m'a dit, mais tu sais, je suis très cher, c'est pas grave. On était tous jeunes, on a tous fait des petits boulots, et on s'est payé, on était une vingtaine de personnes avec cette association que j'ai organisée. Et je me suis payé 2 ans de formation, un théâtre qui n'était pas rentable du tout parce que c'était pas du tout dans l'institution, ça c'était pas du tout le truc de réseau, c'était vraiment ce que je voulais faire, ce que je voulais apprendre. Et tant d'années encore aujourd'hui, ce que j'ai appris avec lui en 2 ans me sert encore. Il m'a vraiment donné des outils formidables pour le travail, aussi une forme d'exigence, quoi. Et puis des années plus tard, j'ai travaillé avec je suis entré au Théâtre du Soleil par voilà, je vais pas entrer dans les détails de comment, mais ce rêve, cette visualisation, cette ambition prétentieuse que j'avais, s'est accomplie. J'ai été très heureux pendant 7 ans au Théâtre du Soleil, théâtre de troupe.
Autre chose.
C'était formidable. Non, j'ai découvert que ce qui est fondamental au théâtre, et peut-être en art, mais en tout cas au théâtre, pour le jeu d'acteur, c'est toujours la même chose, quelle que soit la forme. Alors, d'un metteur en scène à un autre, d'une méthode à une autre, d'une approche à une autre, c'est le nom des outils qui changent. Mais les outils, en fait, dans le fond, sont les mêmes. Donc ça m'a intéressé. Et puis, j'ai énormément appris, contact d'Ariane Mouchkine et des acteurs qui étaient dans la troupe à ce moment-là. J'ai commencé par faire des tout petits rôles. Puis, le dernier spectacle que j'ai joué Orgon dans Tartuffe. Et puis, à ce moment-là, j'ai senti que ce que j'avais vraiment beaucoup reçu et que il était venu pour moi peut-être le moment de quitter la troupe, non pas m'éloigner d'elle parce que je continue à les voir, j'ai vu rien il y a 2 jours et on s'adore, mais un peu de transmettre ce que j'avais reçu, une autre prétention, tu vois, une autre prétention. Après j'ai fait ma carrière dans un théâtre plus institutionnel, les compagnies, etc. Et puis depuis 2011, je suis revenu au cinéma par le Mexique, par là où j'avais commencé avec mon père, avec un metteur en scène mexicain, avec qui j'ai fait 2 films. Après j'ai fait 2 autres films dans des productions mexicaines, 2 films au Chili, 2 films avec des productions anglo-américaines. Et le dernier, c'est Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, deuxième opus. Deuxième partie de cette histoire en 5, où j'ai joué un rôle de 600 ans, un homme de 600 ans, Nicolas Flamel. Où voilà, où c'était formidable, comment pour le cinéma, c'est un jeu différent, c'est une approche différente, c'est une technique différente, et pourtant, là, j'avais tellement pratiqué le travail corporel, très bien pratiqué le masque, que d'une façon très fine, très subtile, et j'espère que le public l'apprécie, je pense que j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Tout ça m'a servi, en fait. C'est un rôle tellement transformé. Après, quand tu joues un rôle où tu es moins transformé, moins masqué, il faut trouver, toi, dans ta tête, quel est le masque ou qu'est-ce que tu es en train de faire et comment tu abordes un rôle pour que c'est toi, mais en même temps, tu es au service, comme toujours, quand tu es acteur d'une histoire, d'une vision.
Tu me dis que tu commences à dessiner? Est-ce que comment ça
Oui, alors
se...
comment ça se fait? C'est parce
Non, c'est
que...
pas comment ça se fait, c'est comment toute cette expérience que tu as de l'art par le théâtre et par la mise en scène de soi t'a amené petit à petit à aller sur le papier.
Quand tu es acteur, tu es toujours tributaire du désir des autres, n'est-ce pas? On doit t'engager, tu passes des épreuves, des castings, des rencontres, etc. Quelqu'un te voit dans un rôle, te propose un rôle. Ou toi-même, tu lis un texte et tu te dis, voilà, cet auteur me demande de le faire. Qui sait? Et donc, du coup, c'est très compliqué si tu ne fais que ça. Après, l'être humain se développe par l'exemple. C'est pour ça qu'on marche. Parce qu'on voit des êtres humains marcher autour de nous et à un moment donné, on se dit, je vais marcher. C'est pour ça que le mot cuillère signifie pour toi et moi la même chose, puisque j'ai appris par l'exemple que le son cuillère représente cet objet avec lequel on touille le café, par exemple. Donc, dans ma vie, j'ai l'exemple de mes parents, tout bêtement. Mon père est un artiste à 90 ans, qui continue à produire et à faire. Il a fait du cinéma, il a fait de la marionnette, il a fait du théâtre, il a écrit des romans, de la poésie, des scénarios de bande dessinée, il était directeur d'un journal au Mexique. Enfin, toute sa vie, par différents médias, disons, il a raconté des histoires. Ma mère était actrice aussi quand je suis né. D'ailleurs, à 5 ans et demi, elle m'avait emmené en Pologne parce qu'elle est partie travailler 6 mois au théâtre laboratoire de Jerzy Grotowski à Wrocław. Et j'étais là en train de, à 5 ans, de, tu vois, dans les pas de tous ces acteurs qui faisaient leurs exercices, leur training et tout. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai complètement oublié cet épisode et que quand j'ai cherché un maître, j'étais justement cherché Richard Chislack, qui était l'acteur emblématique du théâtre laboratoire de Wrocław, qui, au bout d'un an de travail, m'a dit, mais tu me fais penser à quelqu'un, Bernadette Landru, une actrice qui était avec nous. J'ai dit, mais c'était ma mère. Elle m'a dit, c'est toi l'enfant qui était là à 5 ans dans nos pattes.
Incroyable.
Donc, tu vois, la force de l'inconscient, quoi. C'est incroyable. J'ai été chercher juste là. Mais ma mère, après aussi, elle a fait aussi une école de l'art. Elle a travaillé au musée du Louvre. Puis plus tard, elle était infirmière, et puis plus tard, elle était leader d'un parti, d'un groupuscule marxiste-stalinien, tu vois. Donc j'ai vraiment eu l'exemple de mes parents, d'une génération qui ne se concevait pas justement définie par un emploi. Je suis un ingénieur, agronome, ou je suis éditeur, ou je suis cheminot, ou je suis maraîcher, ou... voilà. Donc, en tant qu'artiste, j'ai toujours eu cette idée qu'on ne faisait pas qu'une chose. Et puis, quand tu es acteur, Richard Chislack m'avait dit, un acteur, c'est un chasseur. C'est-à-dire qu'il est tout le temps aux aguets, tout le temps attentif, parce que tout le nourrit. Chaque rencontre, chaque chose qu'il voit. Donc, j'ai assez vite eu le plaisir, par goût, hein, mais aussi parce que je me suis dit, c'est utile pour moi, d'aller dans les musées, voir les peintres. plus tard la sculpture, parce que pour les corps, tu vois, pour l'expression des corps, pour la, chez les peintres, pas forcément les peintres réalistes, tu vois, tout, à partir des impressionnistes en avant, ça me touche énormément comment on peut rendre le vivant de façon non réaliste, parce que en tant qu'acteur, je pense qu'il faut être vrai, pas réaliste.
Oui, oui.
Tu vois, le réalisme. Mais bon, tout ça, ce sont des mots qui me parlent à moi.
Oui, bien sûr.
Quelqu'un d'autre
non,
dira
ouais.
ça avec d'autres mots. Mmh. Donc, j'ai toujours été sensible au visuel. J'ai toujours aimé la bande dessinée quand j'étais enfant. Je lisais en cachette Tintin sous les draps de mon lit chez mes grands-parents, parce que mon père m'achetait ça en cachette parce que ma mère aimait pas Tintin, elle disait que c'était raciste.
Oui, c'était pas très communiste.
Oui, non, mais à l'époque, oui, voilà, elle était pas encore tout à fait là, mais déjà, c'est sur la fin de sa, c'est, voilà, ouais. c'est avant de mourir qu'elle était dans ce groupe-là, mais déjà à cette époque-là, quand j'avais 7 ou 8 ans, 9 ans, c'était Tintin au Congo, Tintin en Amérique, tout ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout Tintin au Tibet.
Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, c'est lequel ton préféré?
Les 7 boules de cristal, le trésor de Rackham le Rouge, tout ça, quand t'es enfant, tu te rends pas compte. En même temps, je respecte ma mère parce que c'est vrai que, de façon subliminale, les enfants reçoivent pas mal de merde dans leur tête, tu vois, parce qu'il est montré par les jeux dans lesquels ils jouent, qui est basé tellement sur la violence, sur l'élimination de l'autre, la compétition, etc. Donc je comprends qu'elle a voulu me préserver, mais il suffit de dire à un enfant, écoute, lis-le parce que t'en as envie, parce que ça te plaît, puis les histoires elles sont chouettes, mais quand même rends-toi compte qu'il y a quand même un peu de racisme dedans. Et c'est peut-être qu'elle n'avait pas suffisamment confiance en elle et en moi, à ce moment-là, juste pour me dire, voilà. Je pense que les parents, ils doivent juste dire, voilà, ton jeu vidéo c'est bien, mais la vie, c'est pas tout à fait ça. Voilà, t'as 13 ans ou 11 ans, tu vas sûrement tomber sur des films porno, mais la sexualité, c'est pas ça. Voilà. Donc, suivant cet exemple, tu vois, de mes parents, mais mon goût pour tout ce qui était graphique, et qui m'inspirait, qui me nourrissait en tant qu'artiste de scène, je suis aussi allé beaucoup vers le dessin d'humour. Donc, j'aimais beaucoup Kino, j'aimais beaucoup Book, j'aimais beaucoup Cabu, j'aimais beaucoup Volinsky, j'aimais beaucoup Réserve, j'aimais tout ça. J'avais beaucoup d'admiration, quoi, pour le. Et puis j'avais aussi, en même temps, une grande frustration parce que je me disais que je ne savais pas dessiner, tu vois.
Ça, c'est vrai.
Ouais. Voilà. Et puis il y a eu un moment dans ma vie où j'ai décidé d'arrêter de vivre avec des frustrations. Donc je me suis dit, tu sais pas dessiner, tu veux dessiner, dessine. N'est-ce pas le. Agenouille-toi, joins tes mains, et tu sauras ce qu'est la prière. Le catéchisme enseigne ça, mets-toi à genoux et tu verras. Non, fais les gestes, fais-le. Évidemment, tu te mets à genoux, t'as mal au genou, tu pries. Moi, je suis pas du tout chrétien, hein, ouais. ni croyant. Voilà. Mais je crois qu'il y a une vie spirituelle, je crois qu'il ouais. y a un malin, parce que ça m'est utile, mais je vois pas la religion. Je donne ces exemples-là parce que il faut connaître sa mythologie. Notre mythologie, ouais. c'est la mythologie judéo-chrétienne. Si on la connaît pas, si on n'a pas lu la Genèse, si on n'a pas lu les 4 évangiles, on peut pas comprendre l'architecture des immeubles dans laquelle on vit, beaucoup de comportements qu'on a, etc. Et qu'on est aussi porteur de l'interprétation de ces textes, par le dogme de l'Église, des différentes Églises, des interprétations souvent un petit peu
hasardeuses,
toxiques, disons, notamment en ce qui concerne la femme, la vision de la femme, le rôle de la femme, l'histoire de la femme, etc. Tout ça, c'est interprété, que la femme a commis un péché, qu'elle est coupable, etc. C'est que de l'interprétation.
Oui.
Je connais les textes, c'est pas ça. Mais enfin, bon, voilà. Donc, je me suis dit, dessine. Donc, j'ai commencé à dessiner en janvier 2018, très mal, et je me suis dit, tu te juges pas, tu dessines, tu fais ton dessin, et puis je le partage sur les réseaux sociaux, comme
tu
ça.
Gardes,
et là,
ouais.
je le mets dans une boîte dès que j'ai terminé. Et puis, j'ai découvert que le dessin, c'est comme l'écriture, faut la pratiquer, faut écrire, tu dessines, et plus tu dessines, plus mieux tu dessines, tu te trouves. Alors, mon but n'est pas d'être dessinateur, mais d'avoir plaisir à ça, et c'est assez vite devenu un outil d'exploration, en fait, parce que le cerveau a commencé à me dicter, mon cerveau, mon inconscient, enfin, je sais pas, me dicter des dessins. Donc, j'ai commencé à les faire. Parfois, j'avais pas une vision complète du dessin au départ. Donc, au fur et à mesure que je dessinais, les choses apparaissaient. Et puis, je regarde le dessin. Au départ, je voulais faire du dessin d'humour, donc, avec des bulles, etc., quelques idées. Puis, au bout d'un moment, je me suis totalement dégagé de ce qui était texte, pour faire que de l'illustration, et c'est vraiment, quand je regarde mes dessins, j'en ai quoi, 150, 200 maintenant, je regarde en arrière, je me dis, mais d'où ça sort cette image, tu vois, et parfois des choses très sombres, et puis je lutte pas, c'est-à-dire je laisse tout ça sortir, et là, et au fur et à mesure, bah, mon trait s'améliore, J'ai commencé avec trois feutres et deux crayons, et maintenant chez moi il y a je sais pas combien de pinceaux, deux boîtes d'aquarelle, trois types de papier, etc. Puis voilà, puis tu t'achètes des bouquins, puis tu explores, puis tu te dis tiens, genre je vais prendre un cours, puis je fais des exercices, et tant que ça me nourrit. Mais 18-19, enfin, j'ai passé toute l'année 2018, j'ai passé pratiquement enfermé chez moi que à dessiner. C'est-à-dire, ça m'a pris, je dessinais tous les jours, c'est comme ça que tu progresses d'ailleurs.
Ouais, ouais.
J'ai lu un livre très intéressant d'un illustrateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christophe Neumann.
Oui.
Il a un livre qui s'appelle Sunday Sketches, où il raconte son parcours un peu, et on voit toute la variété de styles qu'il adopte. Et il dit, tout le monde peut dessiner. Ça n'existe pas
Ouais, bien sûr.
Il n'y a pas des gens qui savent pas, qui ont du talent, qui n'en ont pas. Il dit, tout le monde peut dessiner, il suffit d'y mettre 10 000 heures.
ouais, forcément.
Voilà, c'est... donc voilà, j'ai investi là-dedans. Puis au bout d'un an, je me suis dit, mais dis donc, je me suis réveillé tout à coup, je me suis dit, mais ça fait un an que t'es là, tu bosses pas, t'es cool. Enfin, si, j'ai fait des trucs, tu vois, j'ai joué l'Iliade, j'ai fait des choses, mais mon obsession quotidienne, c'était de m'asseoir à ma table, là, ma planche à dessin, mes trucs et tout, et puis j'oubliais de manger, enfin, je pouvais passer, tu vois, 7-8 heures là, à explorer ça. Et okay. Donc c'était très nourrissant, puis en même temps tu te dis bon, alors maintenant je fais un dessin par mois à peu près, parce que voilà.
Ouais, c'est ça le problème.
Je s'occupe d'autre chose, puis je viens de publier un livre en Espagne, donc ça me prend du temps. Puis,
il sort quand en France d'ailleurs?
Le livre est sorti en Espagne le 7 mai.
Ouais, j'ai vu ça.
Il vient de sortir. Ça s'appelle Manual de Codicia. Ça a absolument rien à voir, mais je me suis servi de ma formation d'acteur pour incarner un personnage, un apôtre. Fanatique du marché libre et sans entrave, un cupide absolu, quelqu'un dont le seul but dans la vie c'est gagner de l'argent, encore de l'argent et toujours plus d'argent.
Mmh.
Et donc c'est 365 clés ou conseils sur l'argent, la vente, le marketing, l'entreprise, l'économie politique. Et c'est un livre de sarcasme, c'est marrant, d'aphorismes, plus ou moins long.
Plus ou moins à propos avec ces.
Ah, ils sont tous, non, mais ils sont tous, ils sont tous certifiés, normes internationales. Ils sont tous basés sur du vrai. Sur du réel. Il n'y a pas de fantaisie. Mais, c'est pris à l'envers. Le tout premier que j'ai écrit, le livre est en espagnol, hein, pour l'instant. Donc, je le traduis, c'est, une bonne affaire, c'est de vendre aux pauvres en leur faisant croire qu'acheter les rendra riches.
Ouais.
Voilà. Et c'est parti. C'est ce ton-là, tu vois. Mais voilà, et puis ce personnage, voilà. Donc j'ai fait un compte Twitter à son nom, Hammer Clumet.
Ok.
H-A-2-M-E-R-C-L-U-M-E-R.
Ok.
M-E. Mais bon, c'est en espagnol. Et puis j'ai publié là pendant 2 ans ce qui était supposé être les extraits d'un livre qu'il aurait soi-disant écrit.
Ouais.
En anglais, qui s'appelle, mais il n'existe pas ce livre, A Time for Global Money, ce qui ne veut absolument rien dire. Mais
c'est du langage politique.
Si tu y réfléchis, A Time for Global Money, à l'heure de l'argent global, ok, ça sonne bien, juste. J'ai commencé à publier deux trois pensées qui étaient supposées des extraits de ça, comme des citations, tu vois.
Ouais.
Et puis bon, il y a plus de 20 000 personnes qui suivent ce compte.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais.
Qui ont maintenant compris que c'est moi, parce que voilà, au bout de 2 ans, j'ai quand même
essayé
de dire que c'était moi et tout. Donc il y a des gens qui étaient quoi, c'est pas possible, parce que bon, tu vois, avec mon nom de famille et puis mon parcours, je suis identifié à d'autres choses que des choses sur le marketing et l'économie, tu vois. Donc c'était un peu ça l'idée aussi, hein, de pas mélanger les choses. Donc le livre est né, tu vois, pratiquement tout seul, et puis
t'as republié ce qui sortait sur le compte Twitter.
Non, c'est-à-dire que oui et non, c'est-à-dire que à l'époque où j'avais fait tout ça, c'était 140 caractères, donc il fallait vraiment condenser la pensée. C'était un exercice formidable. Mais en même temps, j'adore les aphorismes. Hein. J'ai La Rochefoucauld, Kafka, les aphorismes de Groucho Marx. T'as des faux aphorismes de Sacha Guitry, qui en fait sont dans les livres, ce sont des citations, mais quand même, il y en a plein. L'aphorisme est une forme de pensée poétique. Tu dois tout réduire à l'essentiel, tu vois, mais en même temps, au bout de 2 ans, 3 ans, parce que j'écris sur mon propre compte Twitter aussi les pensées que je pouvais tirer de mon expérience personnelle, et pas des pensées que tu recraches comme ça, comme des évidences, alors que tu les as pas mis à l'épreuve du réel. Au bout d'un moment, ton cerveau se met à penser par aphorisme, tu vois, puis un jour, je me suis dit, mais ouais, en même temps, tu peux pas réduire la pensée à 140 caractères. C'est aussi le petit danger de tous ces Twitter, de tous ces machins. Hein, c'est-à-dire qu'on pense en deux phrases, alors que la pensée... sa beauté et qu'elle est plus complexe, et qu'elle est plus riche. Donc du coup, pour le livre, je me suis libéré de ce carcan. Donc certains sont restés tels quels, des conseils, c'est deux lignes, tu vois. Mmh. Et d'autres sont développés, je les ai augmentés, j'ai créé des nouvelles choses qui rentraient pas dans ce format-là. Donc voilà, si on veut pas acheter le livre, on peut passer une journée à descendre la timeline. Enfin, maintenant, on n'arrive plus à tout voir, mais enfin, une partie des timelines de Mercoumé, mais le livre est différent, il est structuré aussi par chapitre, il y a une évolution, on parle vraiment de parler que de l'argent, donc c'est vraiment la philosophie de ce personnage. Puis il passe au marketing, comment manipuler les autres, puis la vente, qui est déjà une relation physique à l'autre, puis l'entreprise, les relations dans l'entreprise, comment exploiter ses employés.
Correctement.
Et c'est déjà un peu plus long. Et puis à la fin, l'économie politique. Donc le livre, voilà. Donc le fil conducteur, c'est l'humour, et puis il va en s'ouvrant. Mais bon, j'espère qu'un jour le livre sortira en France. Quand à un moment donné, j'ai composé le bouquin sous une autre forme, plus court. Je l'ai proposé à quelques éditeurs, ça les intéressait pas à ce moment-là, l'édition en Espagne était en crise, un livre de tweets, c'était juste pas un livre de tweets, mais bon, voilà, ok. Mm. Et comme dans ma démarche de ne pas accepter de vivre frustré, moi je voulais juste qu'il soit quelque part, donc je l'ai publié sur Kindle, sur Amazon. Et puis, j'en ai vendu 200 à peu près, tranquille, voilà. Ouais. En plus, j'avais même pas mis mon nom au départ sur le bouquin, qui aurait pu servir, disons, comme tu vas pour attirer l'attention. Mmh. Et puis là, il a été remarqué par un éditeur qui m'a proposé de faire l'édition papier. Et puis après, c'était un processus un petit peu long. C'était un autre éditeur après qui m'a fait une meilleure proposition, plus rapide. Mmh. Mais avec lequel, du coup, je lui ai dit, écoute, à ce moment-là, puisque le livre était sorti sur Amazon, donc je vais le retirer d'Amazon, mais il y a des gens qui l'ont déjà acheté, donc je vais pas remettre le même, on va le retravailler, je vais le faire plus long. Donc voilà, lui était ravi parce que le livre est pas très gros, hein, ça fait 120 pages. Mm. Et ça se lit, mais vraiment tranquillement. Comme c'est des toutes petites, c'est des demi-pages, c'est des quarts de page, c'est des phrases. Donc tu le lis dans le métro, dans le train, dans l'avion, dans la rue, aux toilettes. C'est vraiment un livre très très agréable à lire et facile, puis il est drôle. Donc lui était content que je la rallonge. Et puis, voilà, puis le bouquin est sorti. Avec cet éditeur-là, ça a mis 3 mois.
Ah oui, d'accord.
Mais voilà, après, mais j'ai quand même dû insister un tout petit peu, parce qu'au départ, il m'a dit, moi, je sais pas comment vendre ça. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui vont critiquer, entre guillemets, le système du marché, complètement libre et sans entrave. J'attaque pas le capitalisme en tant que tel, mais je me dis que quand la seule chose qui mène le monde, c'est la cupidité, ben on va vers l'extinction de l'espèce humaine. Donc voilà, le problème est là aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est la cupidité qui fait que le monde va si mal, parce qu'on pourrait très bien oui, celui qui est entrepreneur, oui, celui qui a l'idée, oui, celui qui met en marche, oui, celui qui dit on y va, c'est normal qu'il soit rémunéré, c'est normal qu'il aussi l'a investi, etc. Mais on voit dans notre système économique mondial qu'il y a des conséquences sur notre vie quotidienne, que ce qui va pas, c'est la pas du gain, encore plus de gains, toujours plus de gains, et que ça devient complètement absurde. Il y a des fortunes qui sont absurdes. C'est-à-dire que ces personnes n'auront pas assez d'une vie pour dépenser ce qu'elles ont, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants, ni leurs arrière-petits-enfants. Mais voilà, une espèce de course complètement dingue qui fait qu'une entreprise qui marche avec un produit qui se vend parce que tel hedge fund veut donner plus de dividendes à ses actionnaires, va la fermer, va la déplacer, va la faire grossir artificiellement, et du coup elle pourra pas suivre la cadence, et donc du coup tu vas avoir 500 personnes qui vont pas comprendre pourquoi elles se retrouvent sans travail et sans possibilité de retrouver un travail parce que toute la région est sinistrée. Ça vient pas du désir d'entreprendre, ça vient pas du marché en tant que tel. L'être humain a toujours marchandé, a toujours échangé, a toujours. Mais tu vois, un objet qui était destiné pour faciliter l'échange des matières est devenu une matière d'échange. L'argent.
Mmh. Puis il y a plus de limite.
Et du coup, bah oui, voilà. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de livres qui parlent de ça, hein. En tout cas en France, moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de livres qui sont des cris d'alarme, qui attirent l'attention sur ce qui se passe. Certains sont plus anticapitalistes que d'autres, enfin quand même. Mais donc je me dis, j'ai pas besoin de faire un livre comme ça, d'autant plus que je ne suis pas économiste, etc. Faisons plutôt un livre, au contraire, totalement comme si j'adoptais l'état d'esprit de ce personnage-là, de ce Cupide-là, et qu'est-ce qu'il dirait, quels seraient ses conseils terribles. Alors les gens l'ont beaucoup aimé parce que c'est très amusant, le méchant est très amusant, surtout si c'est traité avec humour, peut-être que ça permet à chacun de canaliser son propre démon là-dedans. Hein,
finalement, t'as mis en tweet les dessins que t'avais envie de faire. Presque, parce que la manière dont tu parlais des premiers dessins que tu avais envie de faire,
oui.
Il y avait un peu ce côté-là, quoi, d'humour, de satire et de...
Oui, parce que tu sais, c'est ça ce que j'admire. Écoute, Molière, il a voulu se faire descendre quand il a fait Tartuffe. Pourquoi? Parce que au lieu de dire faire une pièce sérieuse, tragique sur les dévots, sur les fanatiques, il s'est moqué d'eux, il a fait ça à le rire. Et le rire, c'est la bombe atomique de la conscience, c'est-à-dire que... Tu sais, on m'a raconté que à la faculté de médecine de Téhéran, il y a une plaque à l'entrée écrit interdit de rire. Tu vois, je ne sais pas si c'est vrai, mais
j'ai déjà entendu cette histoire.
Oui, tu vois, donc parce que des fois, c'est peut-être de la propagande des républicains américains, je sais pas. Mais ça ne m'étonne pas. Regarde, enfin Coluche, qui était un comique, quand il s'est dit bon, là, tout ça va pas, donc maintenant, moi, je vais me présenter aux élections. Ben, ils ont tremblé, hein. Et ils l'ont persuadé par des menaces de mort, par etc., de ne pas se présenter. Mais parce que, voilà, le rire est un instrument de prise de conscience très fort.
Et l'art?
L'art, c'est autre chose. L'art, c'est comment dire? L'art, c'est quelque chose qui ouvre tes yeux. Et ouvre ton cœur, c'est-à-dire ouvre tes yeux, ton cœur. C'est quelque chose qui, parce que l'art, c'est trop général, mais c'est les artistes, tu vois. Quand une œuvre d'art, c'est l'expression d'une vision très personnelle, mais qui est en même temps qui n'existe que dans le rapport de l'artiste à son œuvre, de l'artiste au spectateur, de l'œuvre au spectateur et du spectateur à lui-même à travers cette œuvre. Donc c'est vraiment quelque chose qui c'est un levier d'ouverture.
Ouais.
Tu vois, d'ouverture. C'est pour ça que l'art officiel est un instrument de fermeture. Bon, l'art est réfractaire au dogme. Donc à partir du moment où tu vas le définir, cette définition elle ne sera vraie que le temps qu'elle t'est utile. Et puis au bout d'un moment, l'art va ruer et te mettre ton derrière dans la boue et te dire tu crois que je suis ça, eh bien je ne suis pas ça. C'est pour ça que je ne peux pas le définir, parce que le définir, c'est anti-artistique. Tu vois? L'art, c'est un... L'art, c'est la liberté. Voilà. Et la liberté, elle est libre même de définition que tu vas lui donner.
Et puis une définition, elle ne peut être que ce que toi, tu dis aujourd'hui. Enfin, moi, je pourrais faire 1000 fois l'expérience. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'art?
Tu peux te poser la question, qu'est-ce qu'est mon art? Si tu descends d'une échelle, c'est-à-dire où j'en suis en tant qu'artiste, moi. Parce que la question de l'art, je veux dire, qu'est-ce que c'est l'art? C'est encore une forme de prétention, pourquoi pas? Mais la question, c'est où j'en suis. Parce que je me sers toujours de métaphores bibliques, parce que c'est notre mythologie. Dans la Genèse, dans la création, Dieu dit beaucoup de choses à l'homme et à la femme. Enfin, au début, l'homme est mâle et femelle, hein, à l'image de Dieu. C'est pas un monsieur barbu. Il est mâle et femelle en même temps. Et après, ensuite, lui, il sépare le principe mâle et femelle à la toute fin, le sixième jour, dans le conte de fées. Ouais. Hein. C'est, tout ça, c'est symbolique. Ce sont des symboles qui structurent notre inconscient. Mais une chose que Dieu dit à l'homme, la première question qu'il lui pose, c'est où es-tu? Après que tous les deux aient mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, si c'est Dieu, moi, si j'accepte le conte de fées, moi, je suis un enfant très naïf, me dire, bon, bah, Dieu, c'est Dieu. Hein. Donc, Dieu ne peut pas ne pas savoir où sont Adam et Ève derrière le figuier. Enfin, sinon, c'est pas Dieu. Donc, ça veut dire que cette question est fondamentale. Il pose cette question. Où es-tu? Où es-tu corporellement, dans ton corps? Où es-tu intellectuellement? Où es-tu émotionnellement? Où es-tu sexuellement, créativement? Où es-tu en tant qu'artiste? C'est ça la question. Parfois, c'est très pragmatique. J'ai du mal à dormir, donc où es-tu? C'est où est ton lit? C'est une question très utile. Il est placé nord, sud, dans quel espace? Il y a du bruit autour. Est-ce que ton matelas est à 20 ans? Où es-tu? Avec qui tu dors, peut-être? C'est ça, tu vois. Ou avec qui tu ne dors pas? Avec quel fantôme tu te déplaces? Donc, où es-tu, tu vois? Où es-tu dans ta mémoire? Où est-ce que tu t'es arrêté dans ta vie? de l'image que tu as de toi-même, ou quand tu dis qui suis-je, tu te demandes de me présenter. Mmh. Mais moi, me présenter, mais à quel âge, à quel moment? Je porte en moi tous les âges de ma vie. Tu vois? Et souvent, on voit des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont trouvé leur coiffure et vont se coiffer de la même façon toute leur vie. Et ils changent plus, tu vois. Et après, toute leur vie, c'est la lutte contre le passage du temps pour rester accroché à ce moment-là. Chacun a ses raisons, je le critique pas, mais voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que cette question est très importante, tu vois, où
Ouais.
tu es, et elle est utile.
Et en même temps, la manière de te présenter, c'est pareil, elle est jamais la même, quoi. Elle dit aussi un peu où tu es à ce moment-là. Parfois, tu vas te présenter en tant que dessinateur. Parfois, tu vas te présenter comme quelqu'un qui
Je me
fait...
présente jamais comme dessinateur, et tu vois, je me suis
Ouais.
même pas présenté comme acteur. Je dis ma principale
Ouais.
occupation, c'est d'être
Oui.
acteur.
C'est
Tu vois,
parfois
avant
toi,
je
mais...
disais, quand je joue, je suis acteur. Tu vois? Parce que oui, se définir soi-même, ça m'a toujours semblé une chose un petit peu bon, qui demandait une longue conversation. Dans le
Ouais.
fond, tout ce que je t'ai raconté depuis qu'on a commencé à discuter, je suis en train de te dire à peu près qui je suis à ce moment-ci présent. Mais même dans les choses que je t'ai racontées, il y a des choses que j'ai déjà racontées et que je pense depuis un certain nombre
Ouais.
d'années, et je me rends compte que je suis moi-même où je suis toujours au moment là
Ah.
où j'ai pensé ça. Tu vois, je continue à le répéter comme un perroquet, tu vois. Mais parce que ça m'est toujours utile, en fait.
Est-ce que tu te souviens, ouais, le dernier jaillissement poétique que t'es vu, juste ça. Est-ce que tu te
C'est-à-dire que
souviens?
j'écris des poèmes aussi.
C'est vrai?
Oui.
Donc c'était il n'y a pas si longtemps alors.
Non, non, ça fait... Bah, si, y a eu un moment donné, tu vois, comme avec les tweets, comme avec le dessin, il y a un moment donné où je me disais, bon, faut que j'écrive... J'ai envie d'écrire un poème par jour. Je le prenais comme une sorte d'hygiène, tu vois. On se brosse les dents tous les jours, plusieurs fois par jour. Je me disais, il faut... Voilà, la poésie, je trouve, c'est vraiment une activité tellement désintéressée. Personne la lit, et puis j'ai beaucoup moins l'intention de la publier. Enfin, mais c'est un tel travail comme ça d'arriver à l'essentiel et de trouver une expression métaphorique
Ouais.
que les mots rayonnent, comme en anglais, tu sais, les mots ont plusieurs sens. Donc en français aussi, moi j'écris en espagnol aussi, donc bon, c'est un peu différent. Donc, mais ça doit faire un mois ou deux que j'ai dû écrire un petit. J'ai dû écrire un petit poème. C'est souvent ça. Ça naît avec une phrase. Ça naît avec un mot, tu
Ouais.
vois. Et puis je m'assois et je sens que voilà. J'essaye, comme je pense nombre d'artistes, d'être en contact avec une part mystérieuse de moi-même que je méconnais. Donc comme s'il y avait une voix à l'intérieur et puis à laquelle j'obéis. Et puis évidemment j'ai mes goûts, j'ai des choses sur lesquelles, mais et puis j'ai mes règles, tu vois, je me donne certaines règles. J'essaie d'éviter des mots comme l'infini, l'ombre, enfin tout ça, des choses un peu clichés, tu vois. Je me dis bon, tu vas éviter les adjectifs autant que possible parce que c'est trop
Ouais.
facile, tu vas les poétiser comme ça. Donc tu te donnes un corset, parce que je pense aussi que l'art vient aussi d'une forme de contrainte, que ce soit la contrainte de tes outils. Tu vois, en dessin, j'ai découvert par exemple que le dessin, il est fait par le papier aussi. C'est-à-dire selon le papier que tu utilises. Bon, ça, pour les artistes, ceux qui ont déjà plus de pratique, ça va leur ressembler vraiment. Mais ce gars, il débarque, il invente l'eau tiède. Mais selon le papier que tu utilises, ton dessin sera pas le même. La réaction de l'aquarelle ou de l'encre ne sera pas du tout la même. Et donc, j'ai appris à choisir tel ou tel papier pour faire tel ou tel type de choses. Tu vois. Et donc c'est une forme de contrainte, tu vois, il faut connaître ses
Ouais.
contraintes. Et puis bon, donc pour la poésie c'est pareil. Je me dis, et puis après tu obéis, tu suis, tu vois. Et puis, parce que pour moi, comme je me définis pas ni comme poète ni comme dessinateur ni comme rien, c'est à chaque fois c'est une exploration. Chaque rôle que je vais jouer, ça va être un petit peu. Je cherche pas à inventer, à trouver un personnage, parce que ça c'est Ariane Mnouchkine qui m'avait dit ça un jour et j'avais trouvé ça. Non seulement juste, mais j'avais trouvé ça très utile. Elle m'avait dit, si tu penses personnage, tu limites cette personne-là. Alors, j'ai toujours pensé qu'aborder un rôle, c'est comme aller à la rencontre de quelqu'un, comme toi et moi, on se connaît pas, on se rencontre. Et à travers cette rencontre, c'est découvrir cette personne autant que possible. Donc, je joue Orgon, ou je joue, je sais pas, moi, Priam de l'Iliade. Et donc, je vais à la rencontre de Priam. Et puis, je vais essayer d'en restituer ce que j'ai, mais à chaque représentation, à chaque répétition, c'est continuer cette exploration, continuer cette conversation et donner autant de possible de lui, mais ne pas me dire que c'est Priam, que c'est lui, que le personnage est comme ceci ou comme cela. Puisque de toute façon, l'art en général s'adresse quand même, c'est un échange, c'est toujours
Ouais.
vers quelqu'un qui va regarder ça. à un moment donné, peut-être après ta mort, peu importe, mais c'est toujours un mouvement vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire de d'abord de l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'extérieur, c'est un flow, c'est un battement de cœur, c'est un échange. Donc le personnage va aussi être complété par le spectateur, le tableau, la sculpture, elle va être quelque part, si c'est une véritable œuvre d'art, elle va être complétée par le regardant, par celui qui la reçoit. Tu vois, l'art est une communication, sinon c'est pas là. Mais c'est une communication par l'affirmation complète de soi. Tu vois, parce qu'il s'agit pas non plus de dire bon, bah, je vais juste tracer trois lignes, puis ça va vous faire le boulot, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas. Le spectateur n'a pas lui-même la contrainte, qui est la contrainte formelle de l'artiste, ce que l'artiste formellement lui présente pour lui-même pouvoir l'investir. Donc, la poésie, oui, c'est une activité. C'est comme chanter, tu vois. Tous les oiseaux savent chanter. Il y a pas un merle, il y a pas un rouge-gorge.
Tous les enfants, ça
qui ne sait pas chanter. Chanter, c'est une chose naturelle pour l'être humain. Et pourtant, il y a tellement de gens qui ne savent pas chanter, qui se disent qu'ils savent pas chanter, qui chantent faux, etc.
Comme on se dit qu'on sait pas dessiner, d'ailleurs.
Comme on dit qu'on sait pas dessiner, alors que c'est une chose qui devrait être naturelle. Mais là, ce qu'on voit, c'est l'impact sur notre psyché, et beaucoup de choses se retrouvent dans la voix, etc., du vécu. Nous sommes aussi des êtres culturels, et nous nous formons dans l'échange avec... On est des êtres sociaux. Donc, sans toi, je ne suis pas. J'ai besoin de toi pour devenir, advenir, tu vois, de l'autre. La vie étant ce qu'elle est aussi, dure, violente, assez primitive encore dans nos rapports, on est marqué par ça, donc du coup ça se retrouve dans la voix. Mais chanter, c'est une activité qu'on devrait pratiquer tous les jours, ça fait un bien fou chanter. Tu es chez toi, tu sais, le cliché des gens qui chantent dans la douche, c'est parce que c'est l'espace privé, caché, où on n'a pas honte, mais chanter, ça te fait du bien, chanter ça fait du bien. Et écrire un poème par jour, ça fait du bien. Dans la mesure où tu ne cherches pas à être applaudi, tu ne cherches pas la reconnaissance, et par extension, l'approbation. Ça aussi le piège, tu vois. Les réseaux sociaux, par exemple, s'inscrivent parfaitement dans l'économie de marché, puisque maintenant, il s'agit d'obtenir des likes. Donc on pense, tout ce qu'on partage de l'espace intime, mon bébé, mon enfant, ce que j'ai mangé... l'image que je veux donner de ma vie, etc. Donc, une image intime de mon fantasme, du moi-même, est partagée et ne vaut que si elle obtient un certain nombre de likes. Et tout ça, c'est une pensée marchande.
Oui, bien sûr. Hein.
Donc, tous les réseaux sociaux ont transformé notre intimité en un terrain de valorisation marchande.
On essayait,
en tant que bons capitalistes, de tirer le plus de profit en cette monnaie qui s'appelle le like. Et si on n'a pas tout ça, eh ben, on déprime, on vaut rien. Et on se sent socialement exclu comme les gens qui n'ont pas d'argent. Exactement pareil, tu vois. Moi, j'adore les réseaux sociaux. Moi, je suis sur Facebook, sur Twitter, j'ai 3 comptes Twitter, je suis sur Instagram, ça m'amuse et tout ça, mais je suis parfaitement conscient. Enfin, je suis devenu tout à coup conscient il y a 2 jours qu'en fait, j'avais le plaisir du partage parce que je pense que j'ai des choses à dire et à partager et que quand je partage mes dessins, par exemple, ça me permet de me dire ils sont terminés, je les arrête là et je les mets dans une boîte, je les regarde plus, je passe à autre chose, je les oublie. Mais en même temps, voilà, qu'est-ce que je suis content quand il y a 300, 150, 600 personnes qui mettent un petit cœur, qui me disent j'adore sur ton truc, tu vois. Et on est tous devenus des marchands de nous-mêmes. Donc quand tu fais les choses, chanter une chanson, écrire ton poème, qui est une activité tellement gratuite, où en plus ton poème personne va l'aimer parce que tu vois, les poètes ont la dent dure et puis ceux qui sont pas poètes, ça les intéresse pas, etc. C'est vraiment pour toi. C'est une hygiène de ton âme et tu te découvres à travers ça et c'est merveilleux et c'est vraiment intime, tu vois.
C'est une hygiène de ton âme. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu décides de créer pour toi ou pour pourquoi pas présenter plus tard. Il t'arrive très souvent, j'ai l'impression, de te créer des contraintes sur mesure. Tu vois, par exemple, écrire un poème par jour, ou dessiner, tu disais que tu t'enfermais toute la journée pour dessiner.
Que je me dise, je veux écrire un poème par jour, ne veut pas dire que j'ai écrit un poème par jour.
Oui, non, mais que tu aies défini les règles, tes règles, je trouve ça essentiel.
Mon rêve, mon ambition, mon image idéale de moi. L'image idéale de Brontis, comme ça que je projette, c'est Brontis qui écrit un poème par jour, qui chante une chanson par jour, et qui fait un dessin par jour. Bon, faut se calmer, c'est pas tout à fait vrai, faut être honnête. Mais c'est l'ambition, tu vois. C'est la projection de soi-même que je poursuis une espèce de surmoi, de super Brontis. C'est vrai qu'il me dit bon, tu viens ou quoi? Dans le fond, je suis très paresseux, très procrastinateur comme beaucoup de gens.
Ouais, bien
j'ai
sûr.
Lu un livre très intéressant sur la procrastination qui expliquait qu'en fait c'était les suractifs qui étaient. Et puis c'est les gens qui désirent bien faire, etc.
Eh oui, il faut.
Et donc, ils retardent parce que tu retardes de faire les choses parce que tu veux être bien, tu vois, tu veux. Donc cette espèce de philosophie aussi de la réussite fait qu'on procrastine, quand on recule le moment parce que l'exigence est élevée. Et du coup, de temps en temps, je fais un dessin au lieu de parce que j'y passe du temps à mes dessins. En tout cas, je suis pas un dessinateur émérite encore. J'y passe du temps, tu vois, je fais le crayonné, le machin, la mesure, la structure, le tata. Et puis de temps en temps, je vais faire un dessin en 10 minutes. Bon, je mets pas 10 minutes, je mets une heure, mais c'est un dessin vite fait et je les aime beaucoup aussi. Ils sont super. Et puis je m'enlève même cette contrainte là. Je m'en ajoute d'autres. Mais c'est vrai, tu sais, j'ai appris ça au théâtre. Ouais, j'ai mis en scène de l'opéra aussi. Là, les contraintes sont énormes.
Eh oui.
Parce que tu as la contrainte de la partition, donc de la musique que tu dois suivre. Tu as la contrainte des musi-instrumentistes qui sont très syndiqués et donc la répétition est dure une demi-heure, après il faut 10 minutes de pause parce que si tu fais 31 minutes ils vont prendre une heure de pause et donc voilà, et c'est, tu respectes ça à fond, t'as des contraintes au-dessus de toi, tu as le chef en tant que metteur en scène, c'est d'abord le chef qui décide, après tu as la contrainte technique, les lumières, le machin, les costumes, et puis les interprètes, ce qu'on dit les chanteurs, mais en fait, voilà, ce sont des interprètes parce que ce sont aussi des musiciens, comme les instrumentistes, la contrainte de leur corps. C'est-à-dire que tu peux pas leur faire une galipette, au milieu d'un aria, parce que la colonne d'air, parce que si, etc., tu vois. Et c'est vraiment, j'ai vraiment tellement aimé de mettre en scène les trois opéras que j'ai mis en scène, Pélias et Mélisande, Rigoletto et Carmen. Parce que ces contraintes étaient extrêmement fertiles. Ah, c'était formidable. Tu vois, la bonne contrainte, elle est fertile. Donc oui. Et puis de toute façon, tu peux pas. Sinon, t'es un blob, t'es un magma. tu vois, l'expression est liquide. Et le liquide a besoin d'un contenant. Parce que pourquoi elle est liquide? Parce qu'elle va adopter, elle va aller, elle va descendre, elle va changer de forme, liquide, glacé, vapeur. Enfin, tu vois. Alors, il faut bien qu'elle soit dans un contenant. Ce contenant, c'est la contrainte. Alors, la contrainte, c'est pas pour te punir. La contrainte, c'est...
Ouais, tout à fait.
La contrainte, elle est excitante, tu vois. Les vers de Molière, les alexandrins, ou de Corneille, parce que j'ai joué Corneille aussi dans l'illusion comique, c'est une sacrée contrainte. Et si tu n'entres pas dans les alexandrins, si tu n'entres pas là-dedans, tu ne touches pas à la source, tu ne bois pas à la source du génie. Et Molière, tu vois, c'est une ou que sont Corneille ou Eschyle, le plus grand maître de théâtre que j'ai jamais rencontré, et il est dur, il est très très dur.
Oui.
Ah, il est d'une exigence Eschyle, mais jamais vu ça.
Du coup, j'ai l'impression que l'opéra là, ça a été un super.
L'opéra, c'était super. Formidable. Alors, mon rapport à l'opéra, c'est que mon tout premier travail en tant qu'acteur, quand j'avais 18 ans, enfin, une fois que j'avais décidé de faire ça, j'ai été ni sur un plateau, ni sur un écran, c'était pour le lancement du parfum Maxim's, et ils avaient engagé une dizaine d'acteurs pour être habillés genre 1900, ouais. Et se mêler à la gentry, pour aller voir un spectacle, c'était Gigi, je crois. Aller avec eux dans un bus du début du siècle, puis aller dîner chez Maxime, réparti dans l'état pour l'ambiance 1900, tu vois. Donc à cette soirée chez Maxime, il y avait une chanteuse lyrique qui allait chanter des petites choses de Ravel, etc. Et pendant qu'on se préparait, je cherchais les toilettes à l'étage de chez Maxime, et je pousse une porte, j'entre, et cette femme est en train de faire ses vocalises. Et avec ses vocalises, je te jure que c'est vrai, elle a fait vibrer mon squelette. Parce que j'avais vu d'opéra à la télévision, si tu veux, l'image qu'on en a, les disques. Mais là, en direct, tu vois, à 3 mètres d'elle, j'ai vraiment senti mon squelette faire vouh, tu vois. Ça m'a vraiment impressionné. Et donc, quand j'ai eu l'occasion, de nombreuses années plus tard, de travailler sur Pélias et Mélisande pour commencer, je me dis, voilà, je peux pas rater ça, c'est formidable. Non, ouais. Ils sont formidables, les interprètes. de l'opéra. Et puis après, cette contrainte de travailler avec la musique était très belle. J'avais une contrainte économique parce que c'était pas une grande maison d'opéra, c'était le Théâtre Musical de Besançon, qui était un lieu très respectable, mais ouais. Vous n'avez pas un énorme budget. Et donc il faut beaucoup préparer à l'avance, tu as très peu de temps de répétition avec les interprètes, tu vois, j'ai eu le luxe, hein, j'ai eu 10 jours avec avec des interprètes qui étaient tous vraiment, enfin, tu vois, Amel Brahim-Djelloul, Pierre-Yves Pruvot, enfin, d'autres ouais. Plus tard, j'ai travaillé avec Ludovic Tézier, enfin, ouais. Sur Rigoletto, qui sont vraiment des très grands interprètes, ils arrivent, ils ont un texte su, enfin ils ont la partition su, tout ça, mais tu les as 10 jours, et c'était un luxe déjà pour travailler à Paris la mise en scène, et puis après, une fois sur place, dans les décors, etc., une semaine, et dans cette semaine, il y avait toutes les répétitions exclusivement musicales avec le chef, et tout, tu vois, mais c'était des expériences formidables, parce qu'il y avait toutes ces contraintes, et de ma part, mon souhait, puisque Pélias et Mélisande est en français, que Carmen est en français et que Rigoletto est en italien, mais on comprend quand même qu'il y avait les surtitres. Vraiment, je leur ai dit, moi, je veux qu'on comprenne l'histoire. Je viens du théâtre et je veux que le public soit pas seulement dans une jouissance musicale, mais qu'aussi qu'elle soit touchée par l'histoire. Et souvent, le livret est méprisé à l'opéra. Donc, voilà. Mais il y a de nombreux metteurs en scène de théâtre qui font d'opéra maintenant. Et je pense qu'ils ont la même démarche. C'est vraiment donner à sentir, tu vois, l'histoire. Mais moi, je voulais pas faire de quelque chose de spectaculaire. Enfin, dans le sens, gros truc, gros décor, etc. parce que j'aime le, disons, j'ai une démarche un petit peu entre guillemets brechtienne, tu vois, j'aime aller à l'essentiel, laisser l'imagination travailler. Donc c'était vraiment un travail sur la diction du texte, l'articulation des mots dans la musique. Et donc c'était une contrainte pour eux, qui les a beaucoup excités, ça leur a beaucoup plu. Bon, voilà, je dois le dire, chaque équipe a beaucoup aimé travailler avec moi parce qu'on explorait l'histoire et ouais. Du coup émotionnellement ça chargeait leur champ. Et puis le retour du public était formidable. Ça, la musique, il y a la parole bien sûr, mais la musique, elle va directement au squelette, elle va au corps. Et c'est pas du tout la même chose l'opéra écouté en disque que l'opéra dans un théâtre. Ça n'a pas été fait pour être en disque. La musique d'aujourd'hui, elle est faite pour être écoutée en podcast, en MP3, tout ce que tu veux. L'opéra, est écrit pour être vu sur scène, incarné par des corps au moment présent. Et quand tu le vois là. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et c'est un cliché de dire, mais la musique, c'est le langage universel. Il y a une émotion, il y a une force émotionnelle qui passe là. Et vraiment, c'est quand tu arrives à raconter l'histoire et que les musiciens, tous, orchestres et instrumentistes, sont là, sont au niveau, le chef, ouais. La charge émotionnelle que reçoit le public, ça malaxe son cœur, tu vois. Ça le malaxe. Dans un monde dans lequel se laisser émouvoir est dangereux, n'est-ce pas? Surtout en France, on est plutôt dans l'intellect, on n'est pas dans l'émotion, parce que être amoureux, c'est dangereux, avoir peur, c'est dangereux, être ému, c'est être vulnérable, tu vois? Alors que là, tu as un espace protégé, qui est l'espace de la métaphore, qui est l'espace de la narration, qui est l'espace de l'histoire, et grâce à la musique, ton cœur est pris par l'émotion, tu vois? Une émotion très forte, et il est malaxé. Et je le vois comme une chose vraiment de salubrité publique, tu sors, et je pense que quand tu as vu un bel opéra, ton corps, ton cœur a été malaxé, il s'autorise de ressentir, et je pense vraiment que d'une certaine manière, tu es plus à même d'avoir de l'empathie pour ton prochain. Voilà. On approche d'une définition. L'art serait ce qui développe notre capacité d'empathie les uns envers les autres. Serait. J'ai mis au conditionnel.
Ouais, et ben ce sera ça pour aujourd'hui. Merci.
Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks. C'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis, je ferai mon possible pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook. Donc, pigeon.hirondelle, le tout au pluriel. Ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi, ça me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.